Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Les préparatifs du conclave convoqué pour mardi s'accélèrent au Vatican. Les pompiers ont installé sur le toit de la chapelle Sixtine la célèbre petite cheminée. C'est de là que des millions de personnes pourront voir s'élever la fumée blanche qui leur annoncera l'élection du 266e pape de l'histoire. C'est bien sûr la une de ce magazine. Et ne manquez pas, en fin d'émission, nos rendez-vous hebdomadaires avec les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. L'agenda de ces prochains jours est désormais fixé. C'est donc mardi prochain à 10h que sera célébrée la messe pour l'élection du pontife romain. La concélébration se déroulera dans la basilique Saint-Pierre. Elle sera présidée par le cardinal Angelo Sodano, doyen du Sacré Collège. Les cardinaux feront leur entrée en conclave le jour même à 16h30. Ils se retrouveront un quart d'heure plus tôt dans la chapelle Pauline. Puis, conformément au cérémonial des conclaves, ils se dirigeront en procession vers la célèbre chapelle Sixtine en chantant les litanies des saints. Arrivés dans la chapelle Sixtine, après le Veni Creator, ils prêteront serment. Ce samedi matin, les 115 cardinaux électeurs se sont réunis pour la 9e fois dans le plus grand secret en congrégation générale. Selon le cardinal archevêque de Paris André XXIII, cité par l'agence France Presse, ces travaux préparatoires ont permis un travail clarificateur. Le directeur du bureau de presse a fait le point comme chaque jour à la mi-journée avec son humour habituel et une pointe de regret. Le compte-rendu de Bernard de Cotigny.
Je trouve presque dommage que nous arrivions à la fin. C'est par cette boutade que le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le père Federico Lombardi, a entamé la conférence de presse de samedi midi pour aussitôt revenir sur la décision prise vendredi après-midi par les cardinaux de faire débuter le conclave mardi prochain. La date du 12 mars, a précisé le père Lombardi, a été choisie à la très grande majorité du style 10 contre 1, ajoutait-il, pour bien faire passer l'idée qu'il n'y avait eu aucune discussion ou division à ce sujet. Ce fut en réalité la toute première proposition avancée et aussitôt acceptée. Voilà donc pour la 8e congrégation. Quant à la 9e, samedi, là encore, le collège des cardinaux a décidé majoritairement que les cardinaux quittent mardi matin leur lieu d'hébergement dans Rome pour rejoindre finalement la maison Sainte-Marthe, et cela dès 7h du matin, puisque la messe Pro Eligendo Pontifice commencera à 10h. Rappelons au passage que ce dimanche, les cardinaux seront dans leurs églises titulaires de Rome pour des moments de prière. Lundi matin, une 10e congrégation générale sera organisée, car d'autres cardinaux ont exprimé le désir de s'exprimer. Ils le pourront donc. À ce moment, 113 cardinaux ont pu prendre la parole. Si l'on compte ceux de lundi, nous atteindrons le chiffre de 150 interventions. Parmi les thèmes abordés ce samedi, le travail de la curie et son amélioration, en d'autres mots sa réforme, l'activité du Saint-Siège, la situation de l'Église selon les continents et bien évidemment les attentes à l'égard du nouveau pape.
Et le père Lombardi n'a pas manqué de donner quelques informations essentielles pour suivre le conclave, pour la seule partie visible qu'il nous sera permis de suivre, à savoir les fameuses fumées au terme des 2 scrutins du matin et des 2 scrutins de l'après-midi. Et donc, aux alentours de 19h dès mardi soir et ensuite, dès le jour suivant, mercredi, aux alentours de midi et de nouveau vers 19h. Si l'élection du pape devait se produire le matin ou l'après-midi dès le premier des 2 scrutins, alors bien évidemment, la fumée blanche sortirait de la cheminée de la Sixtine au beau milieu de la matinée ou de l'après-midi, à savoir aux alentours de 10h30, 11h et 17h30, 18h. Autant dire que l'on aura les yeux rivés sur le toit de la Sixtine une bonne partie de la journée. Au moment de l'élection, les cloches de Saint-Pierre sonneront à toute volée. Il faudra prévoir une quarantaine de minutes entre la fumée blanche et l'abémus papam, une quarantaine de minutes de suspense. Les cardinaux, nous l'avons dit, ont voulu se donner le temps de mûrir le choix de la personnalité à qui ils confieront la charge suprême. Ils misent à présent sur un conclave court. Il y a quelques jours avant le début des congrégations générales, le cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux, avait accepté de parler de ses attentes au micro de nos confrères de RCF. On l'écoute.
On a bien sûr un certain nombre de convictions. Moi j'en ai 4, si vous voulez. La première, je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'un homme de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui nous tire vers le Christ. Après des personnalités comme Paul VI, comme Jean-Paul II, comme Benoît XVI, je crois qu'on a besoin d'un homme de Dieu. En même temps, il faut que ce pape aussi soit un théologien. Je suis frappé de voir la dimension d'enseignement du ministère pontifical, quelqu'un qui nous aide à entrer dans une intelligence renouvelée de la foi. En même temps, il ne doit pas être qu'un intellectuel. C'est aussi, on a besoin d'un homme de relation, d'un homme de dialogue, qui est une âme de pasteur. Et puis, je dirais enfin, quelqu'un qui a une expérience de la mondialisation, c'est-à-dire aussi qui ait déjà une approche de la diversité de la situation de l'Église dans différents pays. Voilà.
Le cardinal Ricard, un des 115 cardinaux électeurs du prochain pape. À raison de 4 scrutins par jour, aucun conclave depuis 1914 n'a duré plus de 3 jours. Il a fallu 10 scrutins pour élire Benoît XV, mais 3 seulement pour Pie XII en 1939, 12 pour Jean XXIII, c'est-à-dire 3 jours, 6 pour Paul VI, et même l'élection de Jean-Paul II très ouverte n'avait nécessité que 8 scrutins, alors qu'on sait que Benoît XVI fut élu en 2005, dès le 4e tour de vote. Les regards du monde sont donc rivés sur le Vatican. Un appareil médiatique sans précédent a été mis en place. Les demandes d'accréditation ne cessent d'augmenter, indique le bureau de presse du Saint-Siège. C'est encore plus que lors de la béatification de Jean-Paul II. Mais l'emballement médiatique ne doit pas occulter la dimension spirituelle de cet événement. À partir de lundi, à midi, le Centre international des jeunes San Lorenzo, situé en face de la salle de presse du Saint-Siège, entame une prière pour le conclave qui se poursuivra jusqu'à l'élection du nouveau pape. Des groupes de jeunes venus du monde entier vont se relayer 24 heures sur 24. Une messe internationale en plusieurs langues sera célébrée tous les jours à 18h30. Par ailleurs, des jeunes guideront également, en collaboration avec le Centre de télévision du Vatican, une prière du chapelet à 16h, place Saint-Pierre, tous les jours, jusqu'à l'élection du nouveau pape. Le dialogue avec les Juifs aura été une des priorités du pontificat de Benoît XVI. Je vous propose d'écouter à ce propos le père jésuite David Neuhaus, vicaire du patriarche latin de Jérusalem pour la pastorale des catholiques de langue hébraïque.
Je dirais que la personne de Joseph Ratzinger a porté beaucoup. Parce que bien sûr, c'est une œuvre qu'il a commencée longtemps avant d'être pape et qu'il a continuée pendant son pontificat. Mais je dirais que ce n'est pas une unité à un dialogue qui est fait de la diplomatie, parce qu'il insiste tellement sur la vérité. C'est un homme de dialogue, mais il n'est pas prêt à compromettre la vérité comme on lui le comprend. Et parfois, cela a provoqué des crises avec ses partenaires de dialogue, mais je crois profondément qu'il nous laisse dans une situation où nous sommes avec tout un vocabulaire de continuer l'œuvre de dialogue avec le peuple juif dans la vérité. Il a insisté beaucoup que le chrétien proclame la vérité qu'il connaît. Cette vérité a un visage. Cet visage est le visage de Jésus et Jésus est un juif. Là, bien sûr, ça touche plusieurs thèmes. Certains sont très importants pour le dialogue avec le peuple juif du point de vue juif, c'est-à-dire nos racines juives, notre enracinement dans l'Ancien Testament, l'héritage que nous partageons avec le peuple juif. Mais on ne peut pas oublier que Jésus, celui qui nous réunit dans les racines, nous divise dans la foi. Et Benoît XVI ne l'oublie pas. Ses œuvres théologiques, les 3 volumes sont sur Jésus tout spécialement, sont lus par les lecteurs juifs bien cultivés. Et je pense qu'ils sont très impressionnés par la profondeur de la réflexion, mais aussi provoqués par les vérités qui sont proclamées dans ces volumes. Ces vérités sont les vérités de notre foi. Et là, bien sûr, une tension entre une conviction que la réconciliation doit être notre chemin avec les Juifs. Nous devons écouter le peuple juif. En même temps, nous avons une proclamation à faire et cela est que Jésus est notre vie, notre vérité, notre lumière. Là, on ne peut pas faire des compromis. Et pour cela, je pense que le dialogue avec le peuple juif est beaucoup plus profond avec la contribution de Benoît XVI. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crise. Dans la profondeur, il y a des crises. Des crises sont des moments importants dans un vrai dialogue. On ne peut pas prétendre que le dialogue soit toujours dans une sérénité diplomatique.
Mais est-ce qu'un peu de la méfiance, parce qu'on sait qu'il y a eu de la méfiance, a été dissipée.
La méfiance a été dissipée parmi ceux qui sont prêts à l'écouter, à apprécier la profondeur de sa pensée. Ils sont profondément touchés. C'est le premier pape de citer le Talmud. C'est le pape, avant qu'il soit pape, qui fait la préface à ce document extraordinaire de 2000 ans de la commission biblique pontificale, qui touche à les deux lectures de l'Ancien Testament comme deux lectures analogues. C'est une révolution dans la pensée chrétienne.
Le père David Neuhaus, interrogé à Jérusalem par Marie Duhamel. L'Europe a besoin d'une dimension sociale. C'est le message livré vendredi par les représentants des églises européennes lors d'une rencontre avec le premier ministre irlandais Enda Kenny, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l'Union européenne. La crise économique et sociale était au cœur de cet entretien qualifié d'ouvert et cordial. La délégation chrétienne a mis en avant l'impact social de la crise économique qui ravage actuellement l'Union européenne, ainsi que des mesures d'austérité dont les conséquences sont flagrantes, notamment sur les plus vulnérables, une préoccupation majeure pour les églises. La gouvernance économique européenne devrait être contrebalancée par une dimension sociale, ont-ils fait valoir. La société civile et les acteurs de la vie sociale devraient être associés à tout débat sur l'austérité économique. Celle-ci devrait prévoir des mesures visant à éradiquer la pauvreté structurelle et les inégalités. Plus jamais seul, c'est le livre pour Dieu qui nous est proposé cette semaine. Marie-Hélène Mathieu y raconte l'aventure de Foi et Lumière, le pèlerinage à Lourdes de 1971, la rencontre avec les parents de deux enfants très handicapés qui s'étaient vus refuser l'accès au pèlerinage diocésain. Marie-Hélène Mathieu interrogée par Catherine Aubin.
Écoutez, le début se situe en 1968. Et à l'époque, les personnes handicapées mentales qui sont au cœur de cette histoire étaient encore extrêmement rejetées, même à Lourdes. Nous avons rencontré, Jean Vanier et moi, un couple, Camille et Gérard, dont les deux enfants étaient profondément handicapés, qui espéraient beaucoup retrouver à Lourdes courage, espérance. Quand ils sont arrivés, ils n'ont pas pu s'inscrire au pèlerinage, mais quand ils sont arrivés dans les hôtels, on leur a dit « impossible, vous oui, mais pour vos enfants, il y a les hôpitaux spécialisés ». 3 jours pour eux de souffrance, de révolte, de désespoir qu'ils nous ont raconté. On s'est dit « pas possible que dans la ville de Lourdes, où la Sainte Vierge a choisi la plus petite, la plus marginalisée, les plus pauvres, les plus chers à son cœur, ne soient pas accueillis ». Donc on a eu l'idée d'un pèlerinage pour ces personnes ayant handicap, avec leurs parents, pour qu'ils ne se retrouvent pas encore tout seuls. On inviterait des amis, spécialement des jeunes, et on se préparerait en petite communauté. C'est bien cela qui... C'était sortir les parents, les personnes handicapées de leur solitude, leur montrer qu'ils étaient membres à part entière de l'Église. À Lourdes, il y a eu beaucoup de petits miracles des cœurs. Des parents qui acceptaient leur enfant handicapé pour la première fois. Une petite fille qui souriait pour la première fois de sa vie à la grotte. Un jeune qui décidait de quitter son école, de ne pas se lancer dans le commerce, mais de devenir assistant pour les personnes handicapées. Tant de miracles que le dernier jour, un cri a jailli, oui, nous voulons que Foi et Lumière continue. Et Jean Vanier a dit, eh bien, continuez de vous réunir en petite communauté, à créer des liens de plus en plus profonds, à faire des fêtes, des pèlerinages. Et c'est ainsi que le mouvement est né, la confirmation est venue du pèlerinage de 1975 à Rome, où Paul VI nous a accueillis dans la basilique Saint-Pierre, profondément ému de cette foule de 6000 personnes. Il a abandonné ses notes, il s'est mis à parler à la personne handicapée. Personnellement, tu es aimé de Dieu tel que tu es. Tu as ta place au cœur de l'Église.
Livre pour Dieu, une rubrique hebdomadaire réalisée par sœur Catherine Bain. Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavie pour le commentaire de l'évangile du 10 mars, quatrième dimanche de Carême. Et c'est l'évangile selon saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 3 et 11 à 32. C'est la célèbre parabole de l'enfant prodigue. Ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.
Ce passage témoigne de la miséricorde infinie de Dieu et présente plusieurs affirmations essentielles. En premier lieu, il convient de noter la liberté d'action dont jouit le fils prodigue. Il demande sa part d'héritage et le père la lui donne sans rien dire. Ce premier élément du récit nous montre tout de suite que cette histoire n'est pas l'histoire d'une famille ordinaire sur terre. Quel père laisserait partir son plus jeune enfant sans chercher à le convaincre de changer d'avis? Mais notre Père du ciel est différent. Il laisse à ses enfants la liberté de s'éloigner pour poser des actes mauvais. Pour mener sa vie de débauche, le fils a donc besoin de quitter la maison du père. De fait, le péché nous éloigne de Dieu. Vient ensuite le tournant du récit. Le fils prodigue rentre en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi je suis ici à périr de faim. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Le fils prodigue est capable de reconnaître son péché parce qu'il rentre en lui-même. Il a alors le courage de regarder en face ses actes et leurs conséquences. Le temps de carême doit être ce temps privilégié où l'homme rentre en lui-même. Il peut alors poser un regard lucide sur ses erreurs et se reconnaître coupable. Il entre dans l'humilité qui caractérise celui qui ose reconnaître son péché. Il découvre aussi que le pain dont il a besoin, Dieu seul peut le lui donner et lui donner en abondance. Après avoir mené une vie de débauche, le fils prodigue aurait pu voler les gousses que mangeaient les porcs. Mais il ne le fait pas, car naît en lui une faim que seul le Père peut satisfaire. Enfin, la rencontre avec le Père est révélatrice de l'attitude de Dieu qui guette le retour de ses enfants perdus. L'évangéliste Luc écrit « Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. » C'est le père qui l'aperçoit au loin et court vers lui. À partir du moment où le fils prodigue retourne à la maison du père, c'est qu'il reconnaît sa faute. Point de morale ou de reproche de la part du père. Seulement la joie que le fils qui était mort retourne à la vie. Cette attitude du père qui va chercher celui qui s'égare se retrouve aussi avec le fils aîné. Ce dernier refuse de rentrer, de participer au banquet. Le père sort alors pour essayer de le convaincre de participer à sa joie. Mais le fils aîné est enfermé dans la jalousie. Il n'a pas encore fait ce retour sur soi-même qui permet de porter un regard lucide sur ses actes. Cette parabole s'adresse aux pharisiens et aux scribes qui reprochent à Jésus de faire bon accueil aux pécheurs. Plus précisément, il faudrait dire aux pécheurs qui se repentent. Ce n'est pas le pécheur en soi qui est donné en exemple, mais sa conversion. Ce temps de carême est un temps privilégié pour recourir au sacrement de la réconciliation. Cette parabole nous y aide en nous rappelant que la miséricorde de Dieu est infinie et que notre Père du ciel guette notre démarche de réconciliation. N'hésitons donc pas, dans ces jours qui nous séparent de Pâques, à aller nous confesser.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Sachez que dès l'ouverture du conclave, tous les soirs à partir de 17h30, nous suivrons l'issue du scrutin et la couleur de la fumée qui s'échappe du toit de la chapelle Sixtine. En collaboration avec RCF et Radio Notre-Dame, toute la rédaction de Radio Vatican se mobilise avec des invités et des journalistes au plus près de l'événement. Reportages, interviews, témoignages et le journal de 18h en direct. Et bien évidemment, en cas de fumée blanche, nous serons en direct, quelle que soit l'heure, pour découvrir tous ensemble le nouveau pape. Suivez-nous donc sur notre site www.radiovaticana.va, en vidéo sur le Vatican Player, en direct radio sur le canal 7, accessible sur notre site et sur l'application Radio Vatican pour iPhone et Android. Vous pourrez nous suivre également sur Facebook et Twitter. Bon dimanche à tous.